Vous êtes bien sûr Radio Orient, le journal François-Xavier de Calonne. Après 10 mois d'audience, le procès des attentats du 13 novembre 2015, le plus long de l'histoire judiciaire française, s'est achevé. Le dernier survivant du commando meurtrier Salah Abdeslam est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité incompressible. Notre invité sera Guillaume Denoy de Saint-Marc, le fondateur de l'association des victimes de terrorisme. Le projet de nouvelle constitution soumis à référendum le 25 juillet prochain en Tunisie, l'ISI, est prête à organiser le référendum dans les meilleures conditions possibles. C'est ce qu'indique le président de l'instance supérieure indépendante pour les élections. L'Aïd el-Adha célébrée le 9 juillet prochain, une annonce de la commission religieuse de la Grande Mosquée de Paris. Le coup d'envoi samedi de la Coupe d'Afrique des Nations Féminines de Football 2022, ce sera au Maroc. Nous écouterons Franck Rocotti, journaliste à Africa Top Sport. Le député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis, Éric Coquerel, élu président de la Commission des Finances de l'Assemblée Nationale, un poste stratégique qui revient depuis 2007 à l'opposition parlementaire. Le verdict après les attentats du 13 novembre 2015 à Paris et Saint-Denis, les pires attaques terroristes jamais commises sur le sol français. Après 10 mois d'audience, la cour d'assises spécialement composée a condamné 19 des 20 accusés reconnus comme co-auteurs. Salah Abdeslam, seul survivant des commandos, écope de la peine maximale, la réclusion criminelle à perpétuité incompressible. Des peines allant de 4 ans dont un ferme à la perpétuité ont été prononcées contre les 19 autres accusés. Suite au plus long procès de l'histoire judiciaire française, entretien avec Guillaume Denoy de Saint-Marc, fondateur de l'Association des victimes de terrorisme.
Un tel procès semblait inconcevable par son importance, par sa taille, par l'émotion que ça suscitait. Et ce qui est formidable, c'est qu'il s'est tenu dans tout le respect du droit, et même plus, vraiment dans l'absolu. Toutes les parties ont pu s'exprimer. Et en même temps, c'était un procès fleuve de 10 mois. 10 mois qui ont éreinté les victimes, mais qui ont été très constructifs. 10 mois pendant lesquels les parties civiles ont pu s'exprimer, ont pu assister au débat, ont pu entendre les accusés et leur défense, ont pu répondre à la cour. C'est un procès éreintant, mais qui a permis de remettre de l'humain dans tout ça et de redire les choses de façon constructive, posée, même s'il y a eu de la passion, mais ce n'était pas du tout dans un esprit de vengeance et de revanche pour les victimes, parce du fait de la sérénité des débats.
Ce type de procès participe à la reconstruction des proches des victimes et des blessés.
Ce type de procès, effectivement, participe à la reconstruction. On l'a bien vu par les témoignages de toutes les victimes présentes. C'est pas non plus l'alpha et l'oméga, mais ça fait partie des éléments qui permettent cette reconstruction. C'est à la fois douloureux parce qu'il faut ressortir les choses, mais les ressortir 7 ans après, c'est pas la même chose que juste après l'attentat. Et justement, ça a permis d'intellectualiser les émotions ressenties et d'accompagner sur le chemin de la résilience.
Et cela a été entendu après l'énoncé du verdict des proches des victimes qui ont dit se sentir comme dans une bulle pendant ces 10 mois. Ils quittent aujourd'hui cette bulle.
Oui, alors c'est effectivement aussi une transition qu'il va falloir accompagner, parce que oui, toute leur vie était focalisée sur l'attentat pendant 10 mois. Et maintenant, il peut y avoir un vide, mais un vide qui va être beaucoup moins douloureux que le vide qu'elles ont ressenti juste après l'attentat. Donc, il va falloir l'accompagner, il va falloir se projeter. Il y a aussi des amitiés très fortes qui se sont consolidées durant ce procès. Voilà, c'est le moment maintenant de pouvoir reprendre une nouvelle vie. Il sera peut-être altéré par le fait qu'il y aura sans doute un appel. Donc que le procès va recommencer, mais les appels sont moins poignants en général que la première instance, et ça va permettre aux victimes maintenant de se focaliser sur leur avenir.
Vous avez suivi bien entendu ce procès. Qu'est-ce qui vous a marqué au cours de ces 10 mois?
Ce qui m'a marqué, c'est vraiment l'humanité. C'est-à-dire que on est sorti des positions stéréotypées des uns et des autres, que ce soit des positions victimaires de la part des victimes ou des positions un peu bravaches ou de mutisme de la part des accusés, pour aller les uns vers les autres et aller vers de l'humain, vers de l'individu. Alors certes, certains ont fait le chemin en complet, d'autres l'ont simplement amorcé. Je pense à Salah Abdeslam qui partait du mutisme à la parole, mais une parole pas encore très construite et très rationnelle. Mais en tout cas, un chemin a été fait par tout le monde. Et c'est ça le vrai sens de la justice, je pense. Je crois beaucoup à la justice restaurative. Et là, d'une certaine manière, cette justice-là a restauré les victimes.
Vous diriez justement que c'est le sens de la justice qui a pu être mis en lumière, notamment après ce verdict.
Alors, c'est effectivement un sens de justice complet, dans tous les sens du terme. C'est vraiment la justice normale, mais avec les effets collatéraux de reconstruction pour les victimes, de prise de conscience pour les accusés. C'est un moment fort, un moment qui justement justifie le fait que nous ne soyons pas dans la haine ou dans la vengeance. Nous devons faire confiance à la justice et c'était la justice de trancher. Vous remarquerez qu'aucune des parties civiles n'a contesté le verdict alors qu'il était complètement étagé en fonction des implications des uns et des autres. Je dirais même que certaines victimes auraient souhaité que ceux qui comparaissaient libres ne soient pas condamnés. Donc il y a eu une sorte d'empathie pour ceux qui étaient peu impliqués dans l'affaire.
Et vous le soulignez, l'esprit de vengeance n'a jamais été ressenti au cours de ces 10 mois.
Non, et je crois que c'est quelque chose auquel le grand public s'attend un peu à un discours de colère. Et les parties civiles ont été magnifiques par l'humanité qu'elles ont dégagée, par la vérité de leurs paroles, par la justesse du ton et par cet esprit de justice et d'humanité. Je crois que ça a été un énorme moment de démocratie aussi et de défense des valeurs qui nous lient, des valeurs d'humanité, des valeurs des droits de l'homme, complètement en opposition aux valeurs qui étaient défendues par les terroristes. Et d'une telle manière, c'est une leçon que nous donnons aux terroristes en montrant la force de nos valeurs.
Et il peut y avoir une forme de vide pour certaines parties civiles après ce procès. Comment peuvent-elles faire face à ce vide? Doivent-elles pour certaines se faire aider?
Alors bien sûr, il faut se faire aider, il faut se faire accompagner, que ce soit sur un plan psychologique ou plutôt social et amical. Mais oui, il y a une transition à effectuer, transition qui va aller beaucoup plus maintenant vers la transmission, parce que ces victimes vont pouvoir témoigner de ce qu'elles ont subi, de ce qu'elles ont vécu, et aussi vers la mémoire, vers le souvenir de ce qui s'est passé, et arriver, comme elles l'ont fait durant ce procès, à pouvoir parler de cet événement, l'événement traumatique qu'elles ont subi, mais pour en donner une valeur d'enseignement sur, d'une part, le libre arbitre. On est responsable de ce qu'on a fait, et là, le verdict montre bien qu'il y a des niveaux de responsabilité très différents suivant les condamnés, et aussi le libre arbitre des victimes de s'enfermer ou pas dans une position victimaire. Et ça, c'est vraiment l'enseignement que nous voulons donner et transmettre. On peut toujours sortir d'une position victime, mais c'est jamais par la vengeance ou la haine, mais beaucoup plus par un travail d'introspection et de reconnexion avec la société.
C'est un procès inédit en France.
C'est un procès inédit en France, inédit aussi de façon générale, qui était observé par de nombreux pays. Je pense notamment à la Belgique, qui se prépare à un procès du même type. C'est en tout cas la preuve que malgré la complexité d'un sujet, malgré le nombre d'accusés, le nombre de parties civiles, un tel procès peut avoir lieu. Ça demande des moyens, ça demande une préparation, mais c'est faisable. Et c'est, je pense qu'on aura d'autres grands procès de terrorisme ailleurs dans le monde. Et on doit s'inspirer de ce qui s'est passé pendant ces 10 mois lors de la cour d'assises.
Guillaume Denoît de Saint-Marc, fondateur de l'Association des victimes de terrorisme. Cette annonce de la commission religieuse de la Grande Mosquée de Paris, elle informe les fidèles que la date de l'Aïd al-Adha est fixée au samedi 9 juillet prochain. La Grande Mosquée organisera ce jour-là 2 prières de l'Aïd al-Adha, la première à 7h30, la deuxième à 8h15. Il s'agit, indique la mosquée, de tenir compte du risque d'affluence et d'accueillir les fidèles dans les meilleures conditions. Face à la pandémie de Covid-19 et la 7e vague qui s'évite en France, la Grande Mosquée de Paris recommande par ailleurs le port du masque et l'utilisation de gel hydroalcoolique. Il sera soumis à référendum le 25 juillet prochain, le projet de constitution qui instaurera un régime présidentiel en Tunisie. Une commission était chargée ces dernières semaines de rédiger la future loi fondamentale. Le président tunisien a annoncé un changement de régime en 2022 après une consultation en ligne. Des citoyens, syndicats, associations et experts ont été invités à un dialogue national au sein de commissions pour rédiger la nouvelle constitution, mais pas les partis politiques. Le président de l'instance supérieure indépendante pour les élections indique que l'ISI est prête à organiser le référendum dans les meilleures conditions possibles. Alors que l'Union européenne cherche à s'affranchir des livraisons de gaz russe, cette annonce de l'Algérie, Alger a annoncé avoir mis la main sur un important gisement gazier dans la wilaya de Laghouat, située au centre du pays. Ce sera samedi prochain au Maroc, le coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations Féminines de Football 2022. Ce sera la 14e édition. Elle regroupera les meilleures sélections africaines féminines affiliées à la Confédération africaine de football. Sur cette compétition, entretien avec Franck Orokoti, journaliste à Africa Top Sport.
Cette édition, ça sera bien suivi sur le continent africain, dans la mesure où d'abord il y a des petites équipes qui n'ont jamais participé à une édition qui viennent sur cette compétition lors de cette édition, qui commence d'ailleurs le 2 juillet prochain, et que ces équipes se préparent très bien. Mais au-delà de tout, il faut dire que les 4 équipes qui vont se qualifier pour les demi-finales vont participer à la Coupe du Monde de leur catégorie. Au fait, c'est l'objectif premier de toutes les nations quand on écoute un peu le président de l'Africa Foot, Samuel Eto'o, qui fixe déjà l'objectif des Lions indomptables du Cameroun pour le Caraïbes. Donc ça dénote tout simplement l'objectif de toutes les équipes qui vont participer à cette compétition, cette édition. L'autre chose qui est également très importante, c'est que certaines nations qui sont favorites sur le continent, l'instar du Ghana par exemple, de la Guinée équatoriale, qui a remporté 2 fois déjà cette compétition, on peut citer la RD Congo, le Zimbabwe, le Mali, par exemple, qui n'ont pas réussi à avoir le billet pour cette compétition. C'est ça la grande surprise de cette édition, parce que déjà, ces équipes, pour la plupart, ont eu la chance de disputer les demi-finales, mais pour cette édition, elles sont restées sur le carreau. D'autres choses qui également qui caractérisent cette compétition, c'est que le Nigeria, qui a remporté 11 fois cette compétition, sera la grande favorite. Au-delà, à ses côtés, il y a le Cameroun, la Zambie, l'Afrique du Sud, le Maroc, qui également évolue très bien ces derniers temps lorsqu'on voit un peu les préparatifs orchestrés par la Fédération royale marocaine de football. Et aussi, le sélectionneur, vous savez, c'est un ancien joueur de l'équipe de France, Renan Pedros, qui a révolutionné, je peux dire, tout le football féminin marocain. Les 17 binationales concoctées par Renan Pedros, le sélectionneur de cette sélection, justement, qui a révolutionné pratiquement le football féminin marocain, même leur match amical qu'ils ont joué contre le Cameroun, je crois, était soldé sur un score nul et vierge. Je crois qu'aujourd'hui, on peut compter le Maroc parmi les grandes nations du football africain sur le plan féminin, et que ça peut également être, je dirais, une détonation par rapport donc à cette compétition, même si dans cette groupe, Dans ce groupe, par exemple, on a le Burkina Faso, l'Ouganda, le Sénégal, qui sont également des nations de football en termes, justement, au niveau des dames. Voilà.
Et justement, comment évaluez-vous la popularité du football féminin sur le continent africain?
Oui, je peux dire que dans un passé un peu lointain, le football féminin n'était pas véritablement considéré en Afrique. On refusait justement aux filles de s'adonner au football féminin. Et lorsque vous voyez les filles courir sur les terrains parmi les garçons, les hommes, on les trouve qu'elles sont vagabondes. Maintenant, le football féminin a pris de l'ampleur en Afrique et avec les qualifications des différentes sélections, on se rend compte que ces filles-là, au-delà même du football et des études, ont de l'argent, c'est-à-dire la prime de qualification, la prime d'objectif et les autres. Ils ont de l'argent et les parents se disent, mais tiens, pourquoi pas ne pas laisser également ou bien donner la chance à leurs filles de faire également le football. C'est à partir de là que voilà, les vannes sont ouvertes pour les filles de s'adonner justement au football féminin. Aujourd'hui, le football féminin est vu autrement en Afrique et tous les parents accompagnent leurs filles sur le terrain, les encouragent, histoire de leur donner beaucoup plus de chances de s'adonner justement à cette discipline sportive.
Et ce type de compétition, cette Coupe d'Afrique féminine, vous nous dites que c'est un facteur d'émancipation pour les filles en Afrique?
Le football féminin est un facteur d'émancipation, c'est un facteur d'intégration également, parce que ça permet justement aux filles de s'intégrer dans la société, de faire ce qu'on n'attendait pas justement au niveau donc de la culture africaine, de la tradition africaine. Donc aujourd'hui, on peut dire oui, c'est un facteur d'émancipation.
Franco Rocotti, journaliste à Africa Top Sport. Les prix continuent de s'envoler en France. En juin, l'inflation s'élève à 5,8% sur un an. Contrairement au début de l'année, les hausses des prix ne sont plus contenues à l'énergie. Cela concerne les différents pans de l'économie comme l'alimentaire, les services ou encore les biens manufacturés. Le député de la France Insoumise, Éric Coquerel, a été élu président de la commission des finances de l'Assemblée nationale. C'est un poste hautement stratégique. Il a notamment un rôle de contrôle du budget de l'État. Le député de Seine-Saint-Denis, membre de la NUP, l'a emporté face à son concurrent du Rassemblement national, Jean-Philippe Tanguy. Le camp présidentiel obtient la présidence des 7 autres commissions permanentes. Fin de cette édition, vous êtes bien sûr Radio Orient. Et si on en parlait à 19h et 23h, le thème de ce jeudi soir, quelles sont les causes de la percée historique du Rassemblement national aux élections législatives? Alexis Corbière reçoit Jérôme Sainte-Marie, politologue, sondeur, et Virginie Martin, docteur en sciences politiques, membre du comité scientifique de la revue politique et parlementaire. Très bonne suite de programme à l'écoute de Radio Orient et un très grand merci pour votre fidélité.